rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness. Give me truth.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Retour du Monde, l'émission où les étudiants de Sciences Com viennent vous faire découvrir le pays dans lequel ils ont passé leur semestre à l'étranger. Pour cette première, nous faisons escale en Corée du Sud avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Julien.
Donc toi, tu reviens de 5 mois en Corée du Sud, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Je me permets de faire un petit rappel sur ce pays avant de te laisser la parole. La Corée du Sud, c'est donc un pays de l'Asie de l'Est, situé au sud de la péninsule coréenne, et dont la seule frontière est avec la Corée du Nord. Sa superficie est d'environ 100 000 km² et compte une population de plus de 50 millions d'habitants. Donc historiquement, la Corée du Sud existe depuis 1945, suite à la division de la péninsule entre l'URSS qui occupait la partie nord et les USA qui étaient en charge de la partie sud. Puis en 1948, les deux États deviennent indépendants puis rentrent en guerre en 1950, chacun des gouvernements revendiquant la totalité de la péninsule. Et donc cette guerre n'est officiellement toujours pas terminée. Côté politique, la Corée est une démocratie seulement depuis les années 80. Depuis 2017, le pays est dirigé par le démocrate Moon Jae-in. Économiquement, la Corée pointe au 12e rang mondial en termes de PIB, grâce notamment à sa capitale Séoul, qui est la troisième mégalopole la plus peuplée au monde et qui compte plus de 25 millions d'habitants dans son agglomération. Alors toi, justement Mathieu, tu as passé 5 mois de août à janvier au pays du matin calme, comme on l'appelle, et plus spécifiquement à Séoul, c'est ça ?
Oui, d'ailleurs on dit plutôt pays du matin frais.
Le matin calme c'est ?
C'est non mais c'est ça, mais c'est l'ancienne traduction, maintenant on dit plus matin frais.
Ah ok.
Ça je l'ai appris.
Ok d'accord, super. Ouais. Donc bah ma première question pour toi, c'est à quoi tu t'attendais avant d'aller dans ce pays ?
Bah alors, je m'attendais pas à grand chose. Moi l'idée c'était de choisir un pays où je vais pouvoir partir loin, où j'avais pas le choix, j'allais devoir me débrouiller comme je voulais, et l'Asie m'a toujours beaucoup tenté. Et en plus, je voulais aller dans un pays, entre guillemets, je voulais pas avoir le blues de l'Inde comme certaines personnes peuvent l'avoir, je voulais aller dans un pays où économiquement je sentirais pas un énorme gouffre entre moi et les habitants. Donc la Corée, tout de suite, je me suis dit pourquoi pas. J'en connaissais pas grand chose à part ce qu'on peut entendre de la K-pop. Mais j'avais une grosse curiosité pour l'Asie, notamment l'Asie de l'Est, et l'idée qu'on s'en fait avec les grosses mégalopoles, les villes très peuplées et tout. Mais après, moi, vraiment, je me suis mis en mode Corée une semaine avant de partir.
Et donc, bah, maintenant que t'es revenu, est-ce que t'as eu des surprises particulières vis-à-vis de ce pays ?
Oui, parce que, en fait, donc, vu que je m'attendais pas à grand-chose avant d'arriver, quand je suis arrivé, tout de suite, moi, le vrai premier point de vue que j'ai eu de la Corée, c'est pas avant de partir, donc c'est en arrivant les premiers jours. Et ça fait effectivement extrêmement bizarre, parce que c'est un pays où on écrit beaucoup, notamment partout, sur les murs, la publicité, c'est de l'écriture, et je ne maîtrisais pas du tout la langue. Donc le premier jour, le premier soir, je suis sorti pour aller chercher à manger. J'ai tourné pendant une heure et demie avant d'oser rentrer dans un restaurant. Parce qu'en plus, c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses que nous. Ils vont avoir des rabatteurs, mais les rabatteurs vont avoir peur de parler anglais. Donc ils vont pas venir vers toi. Donc tu fais le tour comme ça. En tout cas, moi, c'était ça. J'étais tout seul. Et donc je fais des tours. Et là, tout de suite, c'est une bonne grosse claque dans ta gueule. Tout est beaucoup plus haut. Il y a des néons partout. C'est pas du tout Paris. C'est Paris qui était la plus grande ville que j'avais fréquentée à part. J'avais passé, 5 jours dans ma vie à New York, donc vraiment. Et bah là, tout de suite, ça fait extrêmement bizarre parce que Séoul, c'est gigantesque. C'est du gigantisme à côté de l'Europe. Et donc, du coup, regarder une langue que tu connais pas, rencontrer des gens que forcément vont être un peu surpris de te voir aussi parce que même si le tourisme se développe en Corée du Sud, c'est pas au niveau de pays comme le Japon où ils sont complètement habitués à voir des Occidentaux partout.
Oui, j'imagine, c'est justement ça aussi qui doit être bizarre. C'est un peu le regard que peuvent avoir les gens envers toi qui es occidental dans un pays où il y a énormément d'habitants mais qui sont des locaux en fait.
La seule fois où vraiment j'ai ressenti qu'ils avaient une espèce de curiosité, particulièrement, bon, les seules fois c'est bon avec les étudiants quand même, quand on allait boire des verres, des choses comme ça. Tout de suite, c'est tu es européen, on va parler, etc. Je connais pas d'européens. Très bien. Ça, j'étais très content de ça, parce que c'est une occasion de rencontrer des Coréens. Ou quand tu vas visiter des lieux culturels. Là, ils sont. Je ne sais. Je dirais que c'est parce qu'ils sont quand même assez fiers de leur patrimoine. Mais très vite, nous, en plus, on a fait un truc qu'on nous avait conseillé de faire et j'avais eu un peu de mal à faire au début. C'est on a essayé les habits traditionnels coréens, les hanbo. Et on a visité un palais habillé comme ça. Ce qui se fait beaucoup, hein, pour le coup, en Corée. On n'était pas les touristes de Disneyland. Beaucoup de Coréens plutôt jeunes de notre âge qui portaient ça aussi. Mais là, du coup, pour le coup, tous les 5 mètres, tu te fais arrêter pour faire une photo avec des Coréens. Parce que du coup, pour eux, c'est vraiment genre, ils comprennent pas pourquoi tu portes. Et encore, en même temps, ils sont un peu contents, ils vont te faire des remarques. Moi, j'avais un habit de scribe, ils me l'ont dit. Il y en avait un qui avait l'habit du roi, ils lui ont fait « Ah, tu es le roi », etc. Mais là, pour le coup, on a fait pas mal de photos avec nous. Mais sinon, moi, on m'a dit qu'il y avait les gens qui prenaient des photos discrètement, qu'on voyait pas, bah, visiblement assez discrètement, parce que moi, je l'ai pas vu.
Alors, pour rentrer un peu plus dans des sujets plus sérieux, on a vu avec l'année dernière tous les événements qui sont passés autour de la Corée du Nord, les États-Unis, etc. Moi, une question que je me demandais, c'est est-ce que toi, là-bas, tu as ressenti un peu ces tensions que nous, on nous a vendues en Europe, notamment en France, sur ces tensions entre la Corée du Nord, les États-Unis, etc.
Alors non. Non, et c'est une bonne question parce que c'est ma famille par WhatsApp, etc., me demandait des fois, genre, une fois que mes parents n'osent pas trop me demander des trucs comme ça, mais une fois que l'anxiété avait bien monté, ils m'envoyaient quand même un message, genre, tout va bien. Dès qu'ils avaient une news, surtout avec les chaînes d'infos en continu ou les sites d'information qui montaient en épingle, j'ai appris qu'il y avait une grosse mode en Corée, c'était de faire des vidéos YouTube pour se préparer à la guerre. J'en ai parlé aux Coréens, ils n'étaient pas au courant. On ne le ressent pas parce que déjà... Comme tu l'as rappelé en introduction, c'est un pays qui est en guerre depuis les années 50. Genre des hélicoptères militaires, il y en a tout le temps de toute façon. Moi, j'y faisais même plus vraiment gaffe. Mais nous, on en voyait pas mal survoler la ville de temps en temps, et sans que ça change quoi que ce soit au climat. Moi, je sais que eux-mêmes ne parlent pas trop de ça. C'est sans doute aussi un tabou, parce qu'on avait des cours, j'avais un cours plus relations internationales, où même pour faire une présentation sur son pays et sur l'historique de son pays, le Coréen avait un peu de mal, et quand ça partait en débat, il n'était pas à l'aise avec ça. Ce que je peux comprendre, parce que du coup, tout le monde a un avis sur la Corée, les Coréens sont un peu fait déposséder, en tout cas internationalement, de la Corée.
Et oui, bah justement, en parlant du fait de se faire déposséder, il y a aussi, on le voit avec les images, une grosse influence des USA en Corée, c'est ça ?
Alors, oui et non. Mais en tout cas, moi, on m'a dit que c'était un pays qui manifestait peu. Et le jour où je suis arrivé, j'ai vu une manifestation de soutien à l'action des États-Unis juste devant ma guest house. C'est une grosse en plus, hein, parce qu'ils font du bruit quand ils manifestent. C'est bien fait, il y a des belles banderoles, c'est assez impressionnant. Et oui, il y a une influence américaine, il y a encore des militaires américains en Corée, notamment le quartier d'Itaewon, qui est le quartier des étrangers à Séoul. C'est parce qu'est implantée, pas loin de là, une base militaire américaine, comme dans un des quartiers les plus touristiques, pas loin vers Insadong, un peu plus haut, quand on se rapproche de la montagne, il y a aussi une base militaire américaine.
Ok, très bien. Moi, l'une des questions que je me posais justement par rapport à la Corée, est-ce que c'est... la même ambiance en termes scolaires qu'on peut avoir l'image au Japon où c'est une pression très grande sur les épaules des étudiants avec un désir de réussite très fort et donc une grosse pression mise sur les études. Est-ce que toi, t'as pu ressentir ce genre de pression-là ou pas du tout?
Alors, comment ils en parlent? Oui. Notamment ceux qui avaient vécu à l'étranger, qui faisaient le comparatif avec les études qu'ils avaient pu faire à l'étranger et ce qu'ils faisaient en Corée, c'est pas la même du tout. Je sais comment on m'en parlait, le bac coréen, c'est l'événement, quoi. C'est, bon, après, je pense que faudrait que je relise pour faire la part entre le vrai et le faux. Mais globalement, ce qu'on pouvait me dire, c'est que il y avait, pendant le bac, si t'étais en retard, les flics venaient te récupérer et t'emmenaient en courant bac. Et apparemment, c'est vrai, et personne ne m'a contredit en tout cas là-dessus. C'est une pression monumentale pour le bac, globalement, mais les études en général. Je sais que nous, on était exchange student, on était privilégiés globalement. Hein. Les cours étaient plus faciles pour nous. Mais pendant les périodes de révision de partiel, nous, on avait, dans la tour, notre dortoir, on avait des petits packs qui étaient livrés pour qu'on ne puisse pas sortir de chez nous. Ils nous livraient la bouffe pour qu'on puisse réviser. Ah ouais. Donc moi, ça me faisait de la bouffe gratuite, parce que de toute façon, pas besoin. Mais pour beaucoup d'étudiants, ils restaient là. Et tous, les jours avant les partiels, ils sont là et ils bossent. Et leur bac... qu'est-ce qu'on m'avait dit, c'était du 9h22, leur lycée, pardon, c'est du 9h22h qu'ils avaient comme cours. Ils ont des cours après.
Oui, il y a des cours du soir, etc.
Ils ont les cours du soir. Les profs qui donnent les cours du soir sont starisés avec leurs résultats. C'est hyper important. Et il y a une énorme, effectivement, il y a une énorme pression sur ce qui est de réussir, mais surtout de ne pas échouer. Et de pouvoir continuer à rester dans les études. Ils sont tous classés. Il y a un de nos profs qui classe même tout ce qui est assiduité. Et participation, enfin, il classe tout. Et il y a un de nos profs qui a tout de suite tenu à dire au début aux étudiants coréens, je vais classer l'assiduité parce que je suis obligé, mais le système ne m'autorise pas à mettre plusieurs fois le même rang. Donc, s'il y a 13 élèves qui ont été 0 à 0 absence, vous allez tranquer de 1 à 13, mais c'est pareil. Parce que lui, a me raconté qu'il avait été appelé par des parents d'élèves, les années précédentes, qui ne comprenaient pas pourquoi leur enfant était classé 13e alors qu'il était venu à tous les cours.
Ah oui, donc il y a vraiment une vraie compétition qui est installée entre les étudiants. Et,
En tout cas, ils sont classés.
En tout cas, ils sont classés.
Et
voilà,
c'est important pour eux.
Okay.
Et c'est D'accord. extrêmement important pour eux, sachant qu'ils ont des courbes de résultats. Ce n'est pas des caps comme chez nous, ce n'est pas 16, 14. Ils vont fonctionner de leur pourcentage de bonnes réponses, ça c'est important. Mais surtout, ils vont être aussi classés en fonction de combien ont eu mieux qu'eux, combien ont eu moins qu'eux, etc. Il faut qu'il y ait une courbe. Donc forcément, parfois, si tous les étudiants sont très bons et qu'il y en a qui ont été un petit peu moins bons, ils vont être notés beaucoup plus durement.
Bah pour finir, est-ce que tu as une anecdote particulière qui t'est arrivée en Corée, quelque chose que, voilà, de spécial qui t'est arrivé là-bas ?
Un truc qui cristallise un petit peu tous les points qu'on a abordés, c'est quand je suis allé visiter la DMZ. Donc, qui est la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.
La zone
délimitarisée.
Oui. Voilà, merci.
Qui est composée de plein de parties différentes. Et nous, on a eu droit à 2 jours là-bas, offerts par l'université. Et là, c'était assez intéressant parce que ça rejoint un peu tout. Déjà, on a pu faire qu'un circuit, vu qu'on était avec des Coréens, limité. Les Coréens n'ont pas le droit de se rendre à la Joint Security Area, qui est la frontière où les soldats se font face, celle qui est montrée dans les films. Quoi.
D'accord.
Celle où on voit les soldats se faire face. Eux, ils n'ont pas le droit d'y être, les Coréens, parce que les tensions sont énormes. Avant, il y avait encore du travail entre les deux pays. Et donc là, ils ont coupé. Il n'y a vraiment plus... Ils ont construit... Bon, la DMZ, donc, du coup, c'est l'anecdote, mais c'est pour moi le plus marquant. C'est pour plusieurs points. Donc d'abord, le rapport de la jeunesse à la frontière en général. Quand on en parlait avec eux, on avait un tour qui était en coréen, donc il devait nous traduire. Nobody devait nous traduire. Fallait leur demander, vraiment, parce qu'eux, ils n'y voyaient pas l'intérêt. Moi, je sais que moi, j'ai poussé mon buddy pour qu'il me dise absolument tout, pour que je comprenne. Mais eux-mêmes, à part des sourires gênés, il y en a... Après, c'est peut-être 7 promos-là en question. Hein. Mais ce qu'ils me disaient, c'est... Je leur disais, mais ça t'intéresse pas, t'as pas... Il me dit, non, moi, à la limite, ça me fait peur. Mm-hmm. C'est tout ce que ça peut me faire. Les jeunes, maintenant, ça fait donc, c'est ce qu'on disait, 68 ans que le pays est séparé. À part l'arrière-grand-oncle à qui des fois ils envoient encore une lettre, un colis, mais au nom de la famille, parce qu'eux, ils ne le connaissent pas, ils n'ont plus de lien avec la Corée du Nord, ce n'est pas leur pays. Eux, pour eux, tout ce que c'est les tensions avec les États-Unis en ce moment, où ils sont un petit peu au milieu. Pas pour tous, il y en a qui sont plus engagés politiquement, je pense, même si ce que me disaient certains Coréens, c'est qu'ils aimaient bien discuter avec nous, Français, etc., parce qu'on aime beaucoup parler de sujets où on va aller au conflit. Eux-mêmes, vu qu'ils ont un rapport à l'amitié assez particulier, puisqu'ils n'ont souvent pas le temps, ils vont pas aborder des sujets aussi profonds. Donc du coup, quand on leur pose la question, ils n'aimaient pas particulièrement être là. Alors que la représentante des étudiants internationaux, qui avait une 50aine d'années, elle, c'était important pour elle parce que sa mère avait connu la guerre. Et donc on a vu plein de trucs là-bas. C'était très intéressant parce que, bien entendu, ils te font visiter tout ce qui est de l'ordre du folklore de la guerre, mais qui est quand même intéressant. On a visité un tunnel que les Coréens avaient construit à la binette. Coréens du Nord avaient construit la binette pour infiltrer la Corée du Sud. Il faut y aller quand même pour construire un tunnel à la binette. Je ne sais plus combien de kilomètres ils faisaient, mais c'était très impressionnant et très bas. Mais donc, bref, on a vu ça. On a visité un camp militaire construit par les Américains, avec bien entendu pas le droit de sortir des sentiers débattus parce qu'il y a des mines partout. Ce qui permet d'avoir plein de végétation.
Parce c'est que vrai.
Personne n'y va. Il y a des mines partout. Bon, on a pu voir un peu. Avec le recul, je me dis que c'est du voyeurisme. On va sur un spot où on peut regarder avec des jumelles la Corée du Nord. Sur le coup, j'étais très curieux. Maintenant, je me dis que bon...
Oui, ça fait un peu zoo de...
Ça fait un peu zoo et... Bon, de toute façon, c'est fait. Mais avec le recul, bon. C'était assez intéressant de la voir. Juste, c'est vrai que c'est le spot pour voir, mais du coup, il me semble qu'à ce moment-là, en plus, il y avait des... Ils observent mutuellement, constamment. Et ils peuvent se balancer des spots de musique, des choses comme ça, de chaque pays. Ce qui fait qu'on a reçu de la musique de là-bas, je crois me souvenir. Et en plus, c'est vachement beau à voir la Corée du Nord. Genre, c'est une chaîne de montagnes. Au moins de la Corée du Sud, c'est une chaîne de montagnes. C'est hyper vert parce que toute cette zone-là, il y a des mines, comme je disais. On nous parle de villes fantômes. Bon, de ce que j'ai vu là-bas, effectivement, l'usine ne faisait pas de fumée. Mais bon, je ne sais rien. Je trouve c'était fermé ce jour-là. Mais non, ça, c'était pas le plus intéressant, je trouvais. C'était le fait aussi que, par exemple, dans notre camp, pour parler des médecins militaires, une petite tente pour soigner les gens, c'était une attraction. C'est dessiné en cartoon. Il y avait un endroit pour un petit spot photo. Une espèce de entertaining. Dès que tu...
D'accord, ok.
C'est le côté attraction. Il y a quand même toujours des restos. C'est assez marrant. Est-ce que du coup, pour accueillir les touristes ou pour, à mon avis...
Ok, il y a quand même un tourisme qui s'est développé autour de cette zone.
Ah bah oui. Quel que soit l'hôtel où tu vas, t'as un petit prospectus qui te dit comment y aller. Et qui te dit qui appeler, etc. Non, c'est emblématique. Et donc, il y a ça. Il y a le rapport des jeunes à la Corée du Nord, qui est intéressant. Et il y a le fait qu'il y a des infrastructures gigantesques qui ont été conçues au cas où ça se réunifierait. il y a un autoroute qui relie Pyongyang à Séoul.
Ok.
Il y a un autoroute, il est juste coupé au milieu. Et il est coupé au milieu de la DMZ, il y a des gros barils pour bloquer tout, mais il y a un autoroute qui est prêt. Il y a tout un spot de frontières, de visas, de choses comme ça, qui est prêt. Avec une liste des objets interdits, des choses comme ça, c'est prêt. Personne ne le passe jamais, mais c'est prêt.
Il suffirait de casser les murs et puis ça pourrait repartir comme avant.
Ouais. Bah, c'est l'idée en fait. Et le problème, c'est que c'est une espèce de volonté de préserver ça de la part. Il y a un vrai travail de la mémoire en Corée, je trouve très impressionnant. C'est pas cher de visiter les monuments, ils font visiter plein de trucs, il y a plein de guides, de choses comme ça. Parce qu'en même temps, quand on voit, en tout cas les jeunes que j'avais avec moi à ce moment-là, ils sont assez détachés de ce sentiment de mémoire-là, ce que je peux comprendre.
Merci Mathieu pour cette découverte. J'espère que ce premier épisode vous a plu et on se retrouve prochainement pour découvrir un nouveau pays. À bientôt.
Merci.